de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'homme de la radio a un problème. Il crie dans le désert sans le régulateur de l'action qui est la réaction immédiate de celui que l'on informe ou de celui que l'on distrait. Ainsi parlait le conférencier. Ainsi l'écouterez-vous s'exprimer en public au Centre d'études radiophoniques sur le thème « Les aspects psychologiques de la radio ». La manière de réagir affectivement et intellectuellement à une émission de radio, Jean Tardieu présentait le conférencier et la conférence, ou causerie, à venir. Nous étions le 19 mars 1954 sur la chaîne nationale.
Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier vivement M. Fraisse, directeur du laboratoire de psychologie expérimentale et comparée de l'École pratique des hautes études, qui a bien voulu accepter de prononcer aujourd'hui au Centre d'études radiophoniques une causerie qui, en quelque sorte, tiendra lieu d'introduction aux aspects psychologiques de la radio, à toutes les questions concernant la psychologie de la radio dont nous occuperons ce semestre. Je tiens le remercier à double titre, d'abord pour l'appui précieux et éminent qu'il n'a cessé de donner à nos recherches, soit par ses conseils personnels, soit aussi en autorisant quelques-uns des meilleurs collaborateurs de son service, de son laboratoire. J'ai nommé surtout Mme Geneviève Oléron et M. Bresson à travailler pour notre centre. Ensuite, parce que sa causerie de ce soir nous permettra de faire le point de nos travaux en matière de psychologie radiophonique, de mesurer, j'espère, le chemin parcouru et sans aucun doute aussi d'acquérir une conscience plus claire des divers domaines, des divers problèmes auxquels nous devrons maintenant nous attaquer. Je voudrais vous dire quelques mots de la raison principale pour laquelle, dès la création de ce centre, nous avons tenu à réserver une place importante et même prépondérante à l'étude des aspects psychologiques de la radio. Cette raison est à la fois impérieuse et fort simple. Elle pourrait être formulée de la façon suivante. La radio exerce sur les esprits un pouvoir considérable, indéniable, attesté en quelque sorte par le consentement universel, mais un pouvoir dont les effets sont encore imparfaitement connus et qu'il importe de connaître, comme il importe de connaître tout ce qui agit en bien ou en mal sur les hommes. Si un peu partout dans le monde, on commence maintenant à se préoccuper d'étudier ces effets psychologiques de la radio, si certains résultats ont pu être obtenus, soit dans le domaine du sondage de l'opinion publique, soit pour mesurer les conséquences pratiques des émissions dans les pays possédant des stations privées et faisant de la publicité. Il n'en est pas moins vrai qu'un centre comme le nôtre, placé en quelque sorte à la proue du navire RTF, se devait d'inscrire au premier rang de ses préoccupations l'étude de la psychologie des auditeurs, tant à l'échelon de la psychologie individuelle qu'à celle de la psychologie collective ou sociale, ces deux aspects de la connaissance scientifique moderne ayant, comme on le sait, des rapports étroits. Il importe ici de souligner qu'une pareille étude ne présentait pas, à nos yeux, un caractère seulement gratuit, le caractère d'une sorte de recherche de luxe, mais bien au contraire un caractère d'utilité, même d'urgence, celui d'une recherche qui devait être doublement féconde. Elle devait nous permettre d'abord d'analyser, de mesurer, comme je l'ai dit, les effets psychologiques de la radio sur le public, et par voie de conséquence, nous permettre d'éclairer et de guider la production et la création radiophonique à la lumière des résultats de cette analyse. Certes, nous n'avons ni l'intention, ni la prétention de découvrir des formules ou des recettes applicables à toutes les formes de l'expression radiophonique, qui permettrait par exemple de réaliser à coup sûr des émissions standards. Nous avons plus que quiconque le goût et le respect de l'invention personnelle, de la diversité des styles, de l'autonomie des talents, de l'imprévisible inspiration, de l'inépuisable fantaisie, bref, de la liberté dans l'art. Mais aussi Nous ne sommes pas non plus de ceux qui estiment qu'un art est une sorte de vague rêverie décorative, sans attache profonde avec la réalité, sans exigence et sans règles, sans référence à ces disciplines intellectuelles assez dures que réclame la connaissance scientifique et philosophique. Il faudrait une longue étude qui excéderait le cadre de cette brève présentation et aussi de mes connaissances personnelles pour rappeler tout ce que les arts proprement dit ont dans la suite des siècles emprunté aux sciences de leur temps. Une masse énorme de préceptes empiriques ou théoriques puisés dans l'expérience ou dans l'œuvre des savants et des philosophes s'est ainsi constituée, transmise d'âge en âge et s'est tellement incorporée à la substance de notre esprit que nous n'en percevons plus l'origine. Et pourtant, que ce soit en architecture, dans les arts plastiques, en poésie ou dans l'art dramatique, que de notions devenues pour nous évidentes ou indispensables, du moins sous leur aspect le plus évident et le plus facile, ont pour origine des observations ou des méditations qui, en leur temps, étaient le privilège de quelques rares esprits. Je n'en veux pour preuve que des termes comme ceux de mesure, de proportion ou de rythme, qui, nés de la science pure, ont été incorporés au langage esthétique et ont, je le répète dans leur acception la plus simple, rejoint le domaine public alors qu'ils traînent après eux un énorme passé philosophique et scientifique et qu'ils n'ont d'ailleurs pas fini de nous poser des questions, de nous suggérer des recherches. Mais ce n'est pas devant M. le professeur Fraisse, qui est un spécialiste éminent des recherches concernant le rythme, que je voudrais prendre le risque de m'étendre sur des problèmes aussi vastes et aussi ardus. Je vais seulement conclure en disant que plus que tout autre, l'art radiophonique, au point actuel de sa croissance, a besoin de s'appuyer sur des connaissances précises, scientifiquement vérifiées, et en particulier de pouvoir mesurer la portée, l'étendue et aussi les limites de sa puissance. Je dirais même que c'est pour la radio une condition essentielle de vie et peut-être de survie. Enfin, si des esprits pessimistes nous objectent que la radio doit un jour prochain mourir de sa bonne mort dans les bras de la télévision, eh bien, même dans ce cas, les recherches entreprises sur les conditions d'un art purement auditif nous permettront sans doute d'aborder avec plus d'efficacité les problèmes d'un art où le visuel et l'auditif sont associés. Dans toutes ces hypothèses et dans tous ces cas, le rôle de la psychologie et de son allié ou rival, je ne sais pas, la sociologie, doit être immense. Il doit nous permettre, comme le souhaitait ici même un de nos maîtres et amis, Gaston Bachelard, de placer au poste de pilotage de la radio et de la télévision, à côté des ingénieurs du son, ce qu'il avait appelé de véritables ingénieurs des âmes. Sous l'autorité de M. Fraisse, Mme Oléron et M. Bresson auront été ses pionniers, ses premiers ingénieurs des âmes.
Mesdames, Messieurs, à la ménagère qui s'affaire dans sa cuisine, à la famille réunie autour de la table du repas, au travailleur qui se repose de sa journée de travail en fumant sa cigarette, comme au malade allongé dans son lit, grâce à la radio, des voix parviennent, des voix qui sont étrangères à leur horizon quotidien. Des voix toujours émises de la même place, des voix qui informent, instruisent ou divertissent. Dès lors que l'auditeur a tourné un bouton, il est transporté au studio, au théâtre, au stade, à l'église, voire à la Sorbonne, mais comme le serait un aveugle qui ne connaîtrait du monde que le bruit de la vie ou ce que lui en diraient des speakers qui, eux, ont vu, mais qu'il ne verra jamais. Aveugle, la radio leur révèle un monde qu'ils connaissent peu ou pas, qu'ils connaîtront par l'ouïe. Et l'auditeur de radio se trouve alors dans une situation particulière qui incite à se poser des questions sur ce que peut être sa psychologie, c'est-à-dire en réalité sa manière de réagir affectivement et intellectuellement à l'émission. Mon propos n'est cependant pas de vous faire ce psychogramme simple et divers de l'auditeur de radio. Je ne m'en sens pas capable, et peut-être que nos connaissances sont encore trop insuffisantes pour qu'il soit légitime de tenter aujourd'hui une pareille synthèse. Je me contenterai seulement d'une introduction à une tâche qui est devant nous et qui nous permettra peut-être d'avoir plus tard des vues plus précises sur cette psychologie de l'auditeur. Ce que les sciences humaines peuvent apporter aux techniciens, ce n'est pas une meilleure technique, mais peut-être une compréhension de ce qu'il a spontanément réalisé et un éclairage nouveau qui ne lui commandera rien, mais qui le guidera peut-être, de même qu'en rédigeant la moindre page, nous profitons, sans nous y référer, de tous ces cours de grammaire puis de rhétorique que nous avons assimilés lentement pendant 10 ou 15 années de notre vie scolaire. Le psychologue peut seulement dans cet esprit collaborer avec l'homme de la radio et retenir quelques instants son attention, car l'homme de la radio a un problème corollaire de celui de l'éditeur. Il est la voix qui crie dans le désert, sans avoir ce régulateur de l'action, qui est la réaction immédiate de celui que l'on informe ou de celui qu'on distrait. L'homme de la radio émet pour produire des effets chez l'auditeur. Les obtient-il? Il n'en sait même rien. Et c'est ici que les sciences humaines peuvent, me semble-t-il, lui fournir des indications avant comme après l'émission. Avant. Celui qui prépare une émission est guidé plus ou moins consciemment par une intuition qui doit lui permettre de produire un effet. Mais pour soutenir cette intuition, il y a ces principes dont parlait M. Tardieu tout à l'heure, que lui ont enseigné la pratique et la tradition. Cette tradition, sommation du savoir humain, où les recherches des hommes ont leur poids. Après, je soulignais à l'instant la difficulté pour la radio de savoir dans quelle mesure elle avait produit l'effet qu'elle avait recherché. Ici, ce n'est plus le savoir accumulé, mais les techniques développées par la psychologie et la sociologie qui peuvent nous être utiles en permettant de détecter, de mesurer ces effets. Je voudrais dire un mot plus précis sur l'importance des méthodes que peuvent apporter le psychologue. Notre pensée, pour analyser le donné, trouve plus simple de le dichotomiser. Et c'est ainsi que des universités d'analyse superficielle des effets de la radio pourraient se contenter de classer les émissions ou des parties d'émissions entre ce que le public aime ou n'aime pas. Cette dichotomie peut correspondre en effet au contenu manifeste des réactions des auditeurs. Mais on ne peut progresser qu'en allant au-delà et en recherchant les raisons profondes, le contenu latent, pour conserver ce vocabulaire de la psychanalyse. Les jugements immédiats, les réactions même par lettres, peuvent traduire l'influence de critères éthiques ou sociaux, alors que l'effet recherché a pu être autre que ce qui est exprimé. L'auditeur, par exemple, pour prendre un exemple très simple, peut avoir l'air de désapprouver le thème d'une émission, mais en réalité, c'est à la forme qu'il a été sensible. Il aura peut-être trouvé cette forme trop difficile, et l'ayant trouvé trop difficile, il aura dit que l'émission ne lui plaisait pas. Parce que, par un mécanisme psychologique de défense très simple, ce qui est trop difficile pour nous ne nous intéresse pas. C'est l'apologue du Renard et des Raisins Verts. On pourrait parfois s'y tromper. Mon but est de vous présenter quelques remarques sur la psychologie de l'auditeur sans jamais oublier la spécificité des conditions dans lesquelles travaille la radio et dans lesquelles se trouve surtout l'auditeur. Je signale tout de suite que je m'appesantirai volontairement beaucoup plus sur l'activité parlée de la radio que sur son activité musicale, car on ne peut parler de tout, et parce que je crois que l'activité parlée de la radio pose des problèmes plus complexes et plus spécifiques que son activité musicale. Arrêtons-nous un instant à cette situation particulière de l'auditeur de radio. Il reçoit un message exclusivement sonore. Cette situation est paradoxale. On parle et il n'y a personne qui parle. On entend le bruit d'une foule et il n'y a pas de foule. Speaker et interlocuteur n'ont ni visage, ni localisation. Les sons viennent toujours du même parleur haut visible, du même haut-parleur invisible en réalité dans un coin de la pièce. L'auditeur, au moment même où il perçoit le message sonore, perçoit aussi un autre monde, celui de son univers familier, animé et inanimé, avec toutes ses sollicitations. Les conditions de réception auditive sont donc en réalité toujours très mauvaises, car l'auditeur n'est que très difficilement entièrement absorbé par l'émission radiophonique. Rappelons-nous en effet que nous ne pouvons jamais faire deux choses à la fois, être attentif à deux situations différentes. Quand nous avons cette illusion d'avoir une attention diffusée, nous pouvons facilement vérifier aussi bien ou bien que nous sommes que nous avons une succession rapide d'actes attentifs à des situations variées. Ainsi en est-il de l'automobiliste sur la place de l'Alma. Ou bien nous sommes attentifs à une seule situation, en poursuivant cependant une activité automatique qui se déroule machinalement sous une vigilance plus ou moins relative. Cette situation est habituellement celle de l'auditeur. Il écoute la radio en faisant autre chose, le ménage, en bricolant, en prenant son repas, en reprisant ses chaussettes, plus rarement en fumant sa pipe. Même quand il écoute dans les meilleures conditions, il reste distrait par un cadre où la vie ne s'arrête jamais complètement. L'émetteur ne pourra capter cette attention que difficilement et plus encore la maintenir soutenue. Ce sont des sensations, surtout visuelles, qui nous distraient du message sonore radiophonique, alors que d'ordinaire, vision et audition se soutiennent réciproquement. Et vous savez l'importance qu'attachent les travaux modernes aux moyens audio, trait d'union visuel. Des recherches que j'ai poursuivies dans mon laboratoire avec Madame de Montmolin sur des films sonores et parlants ont souligné le rapport réciproque et varié qui existe sans cesse normalement entre l'image et le son dans notre perception. L'image ou le son peuvent être tantôt figure et tantôt fond. L'image n'est que le fond quand le son, un dialogue par exemple, est la véritable action du moment. Le son au contraire devient le fond sonore, quand l'action est dans le mouvement réel que nous voyons ou que représente l'image. Ces situations de relative dépendance entre l'image et le son qualifient donc en réalité l'image et le son pour des modes de communication ou d'expression très différents. Le développement de la télévision imposera sans doute une étude différentielle de la radio proprement dite et de la télévision. Et déjà, par exemple, des travaux de la Columbia Broadcasting System ont montré que les programmes éducatifs avaient beaucoup plus d'audience à la télévision qu'à la radio. Il faut, sans doute, un support concret à un texte abstrait. Il serait peut-être possible d'étudier assez systématiquement les conditions efficaces de cette visualisation et de ses effets. Mais, quels que soient ces artifices, c'est toujours un message sonore qui reste transmis. Et je voudrais maintenant attirer votre attention sur les conditions spécifiques de la réception de ce message sonore. Le message parlé est transmis dans des conditions physiques qui sont déterminées par l'émetteur, le récepteur et les conditions de transmission. En définitive, il parvient souvent à l'auditeur avec un bruit de fond, imputable à la réception ou au bruit de l'ambiance dans lequel se trouve le poste de TSF. Ce bruit a pour effet de masquer le message parlé et de le rendre plus difficilement audible et intelligible. Quelques chiffres pour préciser le problème. Dès qu'un bruit atteint un niveau de 20 décibels, ce qui est le niveau du bruit d'une maison tranquille, il y a masquage. Et à partir de 40 décibels, ce qui correspond au bruit normal d'un bureau sans machine à écrire, bien entendu, dès qu'il y a un bruit de fond de cette intensité, on trouve que le masquage croît proportionnellement à l'intensité du son masquant. Aussi bien, avec un son masquant, par exemple, de 65 décibels, ce qui est le bruit moyen d'une auto, le seuil perceptif est élevé de 5 à 30 décibels, passe de 5 à 30 décibels environ. Nous n'avons pas à nous étonner que les haut-parleurs crient dans les immeubles. C'est une condition pour l'auditeur de percevoir d'une façon raisonnable la radio. Ce message parlé parvient à l'auditeur, modulé par la voix d'un speaker. Une voix qui a des qualités physiques spécifiques, un registre de tonalité par exemple, mais aussi une animation en relation avec le tempérament et la personnalité du sujet. Suivant le speaker, on a trouvé par exemple que le pourcentage de mémorisation après la lecture d'un même texte pouvait varier de 40 à 70%. Une difficulté inhérente et spécifique au message parlé est son caractère temporel. Il se déroule sans jamais nous offrir la possibilité de nous arrêter sur un mot, de revenir en arrière. C'est la formule de flèche qui est à l'heure actuelle très employée. Une entreprise, par exemple, aux États-Unis comme la General Motors, l'utilise systématiquement pour contrôler la lisibilité des brochures qu'elle édite pour son personnel. Il y aurait sans doute la possibilité de faire des contrôles de ce genre pour la langue orale. Évidemment, une considération comme celle-ci sur la structure du discours ne peut être séparée de la nature même et du contenu même du discours. Et d'ailleurs, dans les formules de flèche, il y a des corrections apportées en fonction de l'intérêt même du discours. Et ici, si j'essaye de suggérer une transposition de ce problème au langage parlé, et particulièrement au langage radiophonique, je ne voudrais pas non plus séparer ce problème des problèmes du contenu. Ce problème du contenu, il faut que nous le prenions d'ailleurs, que nous le constituions à partir même de ce qu'est l'élément de la langue parlée, le mot. Des 500 000 mots que l'on trouve par exemple dans l'Oxford Dictionary, chacun d'entre nous n'est capable que d'en reconnaître une fraction. Et si le nombre de mots que nous sommes capables de reconnaître est relativement large, d'autant plus large que nous avons évidemment une culture plus grande et que nous avons un meilleur niveau de l'intelligence. Je souligne en passant d'ailleurs que l'étendue du vocabulaire est une des meilleures mesures du niveau de l'intelligence. Eh bien, si nous sommes capables de reconnaître une assez grande proportion, une assez grande quantité de mots, en réalité, nous n'utilisons qu'un nombre de mots relativement très réduit. Et le vocabulaire courant, estime-t-on, ne contient guère plus que de 5000 mots différents environ. La langue écrite utilise plus de mots, mais pour vous donner par exemple une estimation qui vous en montrera les limites, on cite comme un cas remarquable le fait que James Joyce, dans son ouvrage intitulé Ulysse, a employé 29 899 mots différents. Par rapport au nombre de mots qui existent, c'est relativement très faible. Moins il y a de possibilités d'alternatives, plus grande est la chance que le mot soit perçu. Cette manière de poser le problème, qui est devenue familière dans la théorie de l'information, permet de montrer que le mot le plus inattendu est justement le mot qui apporte le plus d'informations. En effet, dire que la température est de moins 10 degrés, par exemple, apporte et plus riche d'informations que de dire simplement qu'il fait froid. Et on a pu poser que la quantité d'informations croissait comme une fonction du nombre d'alternatives, plus précisément comme le logarithme de ce nombre. Retenons-en simplement que plus un mot est rare et que plus il est inattendu et que plus il est difficile à saisir. Conséquence pratique. Plus aussi il sera nécessaire que l'émetteur, s'il veut faire saisir ce mot, le répète pour être sûr qu'il soit perçu. Je viens de vous souligner l'importance des répétitions. On pourrait ajouter celles qui correspondent dans la langue écrite aux soulignés, des soulignements par le texte. Et maintenant, notez bien ceci, ou maintenant, retenez bien ceci, ou des soulignements simplement par des variations de la hauteur de la voix. De même, la place de l'élément important d'un texte a une importance considérable, et on note le plus généralement que le trait important doit se trouver à la fin même du texte et non pas noyé dans le texte. On devine l'extension que pourrait avoir ce chapitre, mais parce qu'il me semble que les développements s'imposent d'eux-mêmes, je ne voudrais pas m'y étendre. Nous nous sommes surtout attachés jusqu'à présent aux difficultés de la perception et de la compréhension du discours. Cet aspect était surtout relatif à une forme de communication, celle où nous cherchons à diffuser l'information que nous possédons, le savoir en général, pour créer une certaine uniformité de ce savoir dans le groupe auquel nous nous adressons. Mais il est d'autres formes de communication, et il en est en particulier une extrêmement importante, où l'on cherche à modifier par la communication les attitudes et les opinions des auditeurs. À cette influence des communications, nous réagissons, et nous réagissons en faisant subir à ces communications une distorsion. Nous savons d'abord que nous ne fixons qu'une très faible portion du matériel qui nous est transmis. En outre, ce matériel, à mesure que nous l'intériorisons, nous lui faisons subir une transformation. Cette transformation se fait selon deux lois complémentaires qui sont caractéristiques de tous nos processus perceptifs et mnémoniques, qui sont des processus d'assimilation et de contraste. Nous réunissons les éléments qui nous apparaissent semblables entre eux, et ceux qui ne nous apparaissent pas semblables entre eux, nous les extrapolons par rapport aux autres, nous les grossissons, n'est-ce pas, de façon à ce que l'ensemble ait une structure où il n'y ait plus de flou, où il n'y ait plus d'ombre, où il n'y ait plus que des masses bien structuré. Cette première déformation que nous faisons subir à l'information que nous recevons est contemporaine d'une autre transformation, peut-être plus grave, c'est celle dans laquelle nous, par une nouvelle forme d'assimilation, nous retrouvons là une vieille sagesse que nous oublions tous trop souvent. Il faut entrer par la porte ouverte si on veut emmener son interlocuteur là où on le désire. Nous en avons eu un exemple hier, avant-hier, n'est-ce pas, dans l'appel de l'abbé Pierre, par exemple, qui a su entrer par la porte ouverte de notre mauvaise conscience d'une société où il y a trop d'inégalités sociales pour nous mener là où il voulait qu'on aille secourir les sans-logis. Cette condition nécessaire n'est pas encore suffisante. Le contenu même de l'information a une importance considérable. Ceci correspond à ce que nous disions tout à l'heure des lois d'assimilation. Il n'y a pas de raison pour que, à ce moment-là, il ne saisisse pas très bien toute l'argumentation présentée, qui ne fait que renforcer sa thèse. C'est ce qui se passe tous les jours dans notre psychologie, je le répète, où nous ne saisissons des thèses présentées que ce qui nous renforce nos propres opinions. Dans ce cas-là, point n'est besoin d'une présentation critique des thèses, alors que lorsque l'on veut pénétrer, en quelque sorte, violer une personnalité qui n'a pas l'opinion que vous voudriez lui faire admettre, il faut, dans ce cas-là, rentrer aussi par des arguments qui correspondent, au fond, à ce qu'il pense. L'auditeur de radio, il n'est pas face à face avec son interlocuteur. Il ne peut pas communiquer avec l'émetteur, même par une réaction, un cri ou des applaudissements. Sur ces problèmes, nous n'avons que des indications. Je vous ai déjà dit que le discours direct s'était révélé plus efficace que les discours retransmis. On a aussi constaté que les effets négatifs, car toute propagande a des effets négatifs, que les effets négatifs de la propagande était souvent plus fort dans le cas des de la radio que dans celui des discours directs. Est-ce que c'est parce que l'auditeur est moins pris, qu'il reste plus critique? Cependant, d'autres auteurs ont souligné l'importance du fait que la radio avait un caractère personnel, que n'avait pas le discours public. Autre chose est d'assister à un discours d'un homme politique au vélodrome d'hiver, autre chose d'entendre une causerie type coin de feu, n'est-ce pas, d'un président, n'est-ce pas, lorsque l'on est soi-même à sa table ou à son fauteuil. Le caractère personnel que pourrait avoir alors la réception produirait des effets plus profonds que ne produirait le discours public. Il y a là des problèmes extrêmement complexes, et je sais d'ailleurs que, pour avoir regardé votre programme de recherche, que vous vous préoccupez de ces questions de l'audition seule ou de l'audition collective. Il y a un problème sur lequel je voudrais dire quelques mots. C'est le problème lié au fait que, permettez-moi de terminer là-dessus, en ayant conscience d'avoir abordé trop de problèmes pour les avoir traités honnêtement, et aussi trop peu, sans doute, par rapport à ce que doit être la psychologie de l'auditeur. Mais je pense qu'à partir du moment où l'on a compris que l'audition humaine ne se pose pas simplement comme un problème de réception, comme un problème de mécanisme récepteur, mais lorsqu'on en a compris que l'audition, c'était la saisie d'un message par une personnalité qui le frappe à un moment donné où il a une activité, qui a une orientation, au moment qu'il le frappe avec toute sa formation intellectuelle, avec toute sa motivation, eh bien qu'à ce moment-là, on a le droit de penser qu'il y a une situation originale de l'auditeur de la radio et que l'homme de laboratoire a le droit d'essayer de chercher à mieux la connaître. Et si cette recherche peut donner un jour à un homme de radio quelque éclairage qui souvent confirmera ses propres intuitions, qui parfois les nuancera, il aura, je pense, fait un travail honnête.
C'était une conférence de Paul Fraisse, directeur de psychologie expérimentale et comparée de l'École pratique des hautes études, conférence diffusée dans l'émission de Jean Tardieu le 19 mars 1954 sur la chaîne Nationale dans le cadre du Centre d'études radiophoniques. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.